Merci Peter, bonjour chers amis, je suis très heureux et moi aussi honoré d'être avec vous et vous avez vu que le dialogue œcuménique entre nous à l'intérieur de la famille des héritiers de la réforme, il est là parce qu'on est là, puis il est aussi avec Annette, donc je suis très heureux parce que ça montre que on a dépassé un peu les préjugés des décennies précédentes où on se regardait un peu tous azimuts comme chien de faïence, c'est pas vrai non, mais et qu'on peut parler librement de nos convictions chrétiennes dans une société parce qu'on a plus de choses en commun à dire aujourd'hui par rapport aux défis de la sécularité, de la laïcité, que peut-être les tendances, les oppositions, les divergences tout à fait légitimes que nous avons par ailleurs au sein de chacune de nos communautés religieuses et de nos églises. Les évangéliques, les catholiques, les réformés ont tous des débats internes aussi fort heureusement, si bien que c'est plus polarisé entre simplement notre identité confessionnelle au sens étroit du terme. Donc je suis très heureux, puis je rassure Annette, elle l'a bien vu, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole. Tu sais très bien, et je le dis publiquement, moi qui ne vote plus dans le canton de Vaud puisque j'habite Neuchâtel depuis 10 ans, c'est peut-être pour ça qu'on m'a plus pris dans la deuxième commission, mais je ne sais pas seulement la raison, c'est que je partage tout à fait ton diagnostic et ton verdict. Ma seule divergence, juste pour ne pas juste reprendre ce point sur la votation vaudoise du 17 juin, je partage tout à fait ton analyse. Et en même temps, évidemment, tu n'as pas parlé maintenant, mais on en a parlé à la pause, la recommandation du Grand Conseil et de ceux qui s'opposent à l'initiative d'Exit de proposer un contre-projet, j'ai lu aussi l'intervention publique de notre co-religionnaire protestante Suzette Sandeau, qui a dit un peu la même chose que toi, implicitement ou explicitement, à savoir que peut-être c'est la première fois justement que pour des raisons politiques, pour éviter le raz-de-marée d'un plébiscite pour Exit et pour les thèses et la stratégie démagogique de Monsieur Jérôme Sobel et d'Exit Suisse Romande, on fait un contre-projet qui a l'air de légitimer du point de vue éthique la chose et donc qui va, je crois que Maître Philippe Garda pense également la même chose du côté catholique, d'après ce qu'il m'a écrit, dans le canton de Vaud. Je comprends tout à fait ça. En même temps, on est dans la politique, peut-être ma seule divergence, on est dans la politique politicienne et c'est vrai qu'il y a une démagogie qui fait que cette initiative pourrait très bien passer. Parce qu'un tas d'arguments éthiques, comme tu as rappelé, sont pas compris par la population, notamment sur ce qu'on dit d'autonomie ou de la vulnérabilité ou d'autres choses, et que là, dans la politique politicienne, il vaut mieux un contre-projet qui évite, Exit. Si je votais vaudois, je voterais quand même, peut-être contrairement à toi, le contre-projet. Non pas parce que je le vois pas comme une légitimation éthique, mais je le vois comme un moindre mal juridique par rapport au fait que si l'initiative passe, elle est effectivement catastrophique dans l'état d'esprit qu'elle génère et qu'elle sème. Mais c'est une question peut-être de stratégie politique, en même temps pas complètement peut-être, parce que sur ce point, il y a peut-être quand même une différence, et non pas une opposition entre le point de vue protestant et le point de vue catholique, à savoir que moi j'ai la même conception théologique que toi et que l'Église catholique romaine, mais j'ai une autre conception du rapport entre l'Église et la société. Donc je suis plus laïque dans la politique que dans la théologie. Mais ça ferait partie du débat, je vais en dire d'ailleurs quelques mots. Je veux revenir à ce que j'avais prévu de vous dire par rapport à la question, et je vais être moins concret que mes deux collègues, peut-être parce que je le suis moins, parce que je suis plus un théoricien de l'éthique et de la réflexion théologique sur la bioéthique, mais pas seulement, aussi parce que je pense que ce sera plus complémentaire, et ça permettra de nourrir les discussions aussi après entre vous, nous, et puis dans la table ronde, dans le sens où, arrivant à la fin de ma carrière, à une année de la retraite à Genève et à Lausanne l'année prochaine, en éthique, 25 ans d'enseignement et de recherche en éthique appliquée, en éthique fondamentale et un peu en bioéthique. J'ai beaucoup pratiqué, Walter et d'autres le savent, l'éthique sur le terrain, en dialogue avec des professionnels ou des médecins, des infirmières. Je suis moi-même marié à une infirmière belge et catholique, donc j'ai aussi un débat là-dedans depuis, et spécialiste à un certain moment des soins palliatifs. Donc j'ai toute une sensibilité par rapport à ça, et je pourrais multiplier et revenir sur le clonage, sur Exit, parce que je me suis battu sur ces fronts, et j'ai publié sur ces fronts. Mais je veux plutôt faire une réflexion plus générale, mais qui est sous-tendue et soutenue par l'expérience de ces débats et par le souci constant de la présence des positions de l'éthique chrétienne, toute tradition confessionnelle confondue, mais ensuite avec nos divergences internes légitimes et historiques, sur qu'est-ce que nous faisons comme chrétiens dans une société laïque, civile, séculière, et quel type de communication et de message nous pouvons apporter dans le contexte d'une société séculière, chez moi le mot séculier est toujours positif, séculière et laïque, mais pas laïcarde. C'est-à-dire aussi quelle conception de la laïcité nous avons par rapport à ça. C'est ça que j'aimerais essayer un peu de vous dire. Alors, premier point, la bioéthique. Je reprends des éléments qu'aussi mes deux collègues précédents ont traités chacun à leur manière. J'étais très heureux d'entendre le nom de Paul Ramsey. On rappelle les origines, que tu rappelles, Luc, les origines de la bioéthique américaine. Et Annette y a aussi fait allusion par rapport à ce qu'on appelle entre nous le mantra de Georgetown. Ces fameux quatre principes, ou trois, moi j'en dis qu'il y en a plutôt trois, parce que la bienfaisance et la non-bienfaisance, c'est le même. Ces trois principes de ce mantra de Georgetown, dont je souscris tout à fait à ce qu'a dit Annette, à savoir qu'on a isolé le principe d'autonomie des deux autres, alors que c'est vivant. C'est vivant, et que justement, Nathalie Maillard, Corinne Peluchon et d'autres, déjà Paul Ricoeur, qui est l'inspiration de ces deux auteurs, a bien montré qu'entre l'autonomie et la vulnérabilité, il y a plusieurs conceptions de l'autonomie. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs conceptions de l'autonomie et de la liberté. Mais dès l'instant où on traite en bioéthique le principe d'autonomie tout seul, et qu'on l'identifie abusivement avec l'autodétermination, parce que c'est pas du tout la même chose, l'autonomie, pour moi, et l'autodétermination, alors on a une dérive individualiste et libertaire, où c'est que la liberté, que, au fond, le principe de l'éthique un peu dominante aujourd'hui, de l'éthique libérale dans ce sens-là, c'est, et plus, vous l'avez dit tout excellemment les deux, l'important, c'est que la liberté de l'individu soit protégée. Dès l'instant où ça correspond à ma liberté, c'est éthique. Or, avec Paul Ricoeur et d'autres, évidemment, et philosophiquement, et théologiquement, et avec vous, je vais défendre le fait que, bien sûr, l'éthique ne naît que parce que la rencontre de deux libertés, et pas d'une seule. Que le principe d'autonomie, par exemple, dans la bioéthique américaine, dès les années 60 du siècle précédent, à Georgetown, dans l'université catholique de Georgetown, où le méthodiste Paul Ramsey et le jésuite McCormick ont créé la bioéthique américaine, et le concept même de bioéthique dont nous parlons aujourd'hui, ben, il n'y a d'autonomie du patient que dès l'instant où il y a en face l'autonomie dominante du médecin. Alors, l'éthique, c'est toujours la rencontre au minimum de deux autonomies. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, une des raisons pour laquelle je suis opposé, non pas à Exit en tant que tel, mais à l'idée de M. Sobel que seul le médecin peut assister au suicide. Moi, je suis pour le droit suisse de l'assistance au suicide, à condition que chacun ait le courage et la responsabilité de le faire lui-même sans recourir au bon docteur Sobel. Je l'ai écrit publiquement dans le temps, donc je le dis comme ça. C'est pas un acte médical, l'assistance au suicide. C'est éventuellement un acte éthique très grave et très responsable. Il faut avoir le courage de faire seul, puis il faut assumer si on n'a pas de motif égoïste. Donc moi, je peux très bien vivre avec le statu quo de la loi suisse, mais à condition de ne pas l'idéaliser, et puis de pas le théologiser indûment. Je vais vous étonner peut-être un peu, chers amis, mais en théologie, il faut faire très attention de ne pas mettre la théologie partout. Mon adversaire théologique principal dans le débat sur Brexit, c'est le docteur Sobel. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission, le film de Melgar sur l'assistance au suicide, hein, où on voit tout à coup Jérôme Sobel à qui quelqu'un demande mais qu'est-ce qui se passe quand vous me donnerez quand vous me donnerez la piqûre et la dose, qu'est-ce qui va se passer? Puis Jérôme Sobel, juif de la Chaux-de-Fonds, non croyant, je rappelle quand même, lève les bras au ciel et dit il y a quelqu'un qui vous attend là-haut. C'est ça que je combats du point de vue théologique. C'est ça que les évangéliques, catholiques et protestants, quelles que soient nos nuances théologiques, nous devons combattre. C'est pas le refus de la théologie. C'est l'abus du nom de Dieu. C'est l'abus de la théologie de justifier un acte purement humain, de courage. Moi, je suis prêt, et au risque de vous choquer, d'être paradoxal, moi, que des êtres humains, et sur l'euthanasie et sur l'assistance au suicide, que je distingue profondément par ailleurs, puissent à un certain moment dire « c'est plus courageux pour moi ». J'ai la même position de parenthèse sur l'avortement, mais je ne veux pas compliquer le débat. Puisse dire à un certain moment, ici et maintenant, je le fais parce que je pense que c'est la moins mauvaise solution qu'il faut avoir le courage de faire, c'est une chose. Mais c'est l'humanité de l'homme qui le fait, et de venir mêler Dieu à ça et dire que c'est Dieu qui me le demande, et de le justifier théologiquement, ça c'est de la mauvaise théologie. Ça c'est du mésusage de l'idée de Dieu, et donc il y a d'autres qui utilisent la théologie, il y a beaucoup d'autres qui utilisent la théologie, et c'est cette théologie-là qu'il faut aussi critiquer, et c'est pas juste un problème, nous sommes chrétiens et nous faisons de la théologie, puis les autres font pas de théologie, non, ils font une théologie grave et fausse qu'il faut absolument contester, c'est la critique des idoles prophétiques dans la Bible, et nous devons aussi le faire, nous, comme intellectuels, ou croyants, ou théologiens, ou laïcs engagés dans la réflexion théologique. La bioéthique, américaine, telle qu'elle a été retraduite ensuite, tu l'as rappelé Annette, dans nos différentes formations de bioéthique en Europe, etc. On l'a rappelé, a été créée en 1970 par un biologiste et pas par un médecin, Hans-Eller Potter, et le but à l'idée était de faire une éthique correspondant au progrès technologique et scientifique de la biologie. Ce n'est pas une éthique médicale, c'est une éthique bio. Hein, alors, Walter va sans doute revenir là-dessus et dire des choses beaucoup plus subtiles que je ne saurais le dire. Mais je veux dire, les origines de la bioéthique, ce n'était pas simplement un remplacement de l'éthique médicale, mais c'était une autre éthique confrontée au progrès de pointe des biotechnologies. D'une certaine manière, moi je pense que des questions, il y a un abus de langage, il y a pas mal de questions classiques de l'éthique médicale ou de l'éthique clinique, l'avortement, peut-être même l'euthanasie, est-ce que dont tu as parlé Annette, qui sont pas vraiment des questions de bioéthique, mais des questions d'éthique médicale normale, classique, traditionnelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on trouve Aristote ou Platon, ou qu'on revient à Percival, ou à Ambroise Paré, ou à des auteurs bien moins modernes que ceux dont nous parlons dans la bioéthique moderne. Donc ces questions, elles ont toujours été discutées et par les Latins, par les Grecs et par les chrétiens. Et le code d'Hippocrate a été traduit par les chrétiens, christianisé au Moyen-Âge, tout à fait clairement. Donc il y a longtemps qu'on fait de l'éthique médicale et de l'éthique clinique, mais la bioéthique, elle, c'est une éthique des biotechnologies et pas une éthique du soin. Donc c'est une première distinction que j'ai faite dans mes différents travaux. Je vous renvoie égoïstement, narcissiquement, à mon article bioéthique de l'Encyclopédie du protestantisme que j'ai refait en 2006, où j'ai expliqué ces différents éléments. Mais je veux dire, il faut pas non plus tout bioéthiciser, tout ramener à la bioéthique et mettre tout sous bioéthique tout ce qui est extraordinaire et contesté. Il y a de la contestation dans l'éthique médicale et clinique depuis l'Antiquité, mais qui s'est accentuée, bien sûr, avec la modernisation des soins, des connaissances, et comme l'a dit monsieur dans la question, des possibilités de soins qui peuvent confiner à l'acharnement thérapeutique, mais qui sont aussi des progrès médicaux dont nous bénéficions tous par ailleurs. Donc faut, on est aussi un peu ambivalent, on est quand même bien content de pouvoir vivre un peu plus longtemps et en meilleure santé que nos prédécesseurs, mais en même temps on a aussi un petit peu l'envers de la médaille. C'est qu'il faudra vivre plus longtemps et ça coûtera plus cher, et puis faudra, ça donnera peut-être plus d'arguments à M. Sobel et à ses successeurs. J'espère qu'il n'aura pas de successeur, un peu comme M. Blocher, mais qu'il sera tout seul. Non, je devrais pas parler de politique. Mais des fois, les gens charismatiques, ils n'ont pas de successeur, et c'est une bénédiction du Seigneur. Bien. Faut un peu d'humour, vous êtes d'accord quand même, quand on parle de ces questions graves. J'ai dit, pas seulement parce que j'ai une petite fille qui a la grâce de s'appeler Zoé, mais je l'ai écrit avant la naissance de Zoé, j'ai dit dans un article de la Revue de Théologie et de Philosophie, il y a 10 ans, que j'ai apporté ici, la biologie au défi des questions théologiques, la bioéthique au défi des questions théologiques, que peut-être on ne devrait pas parler de bioéthique, mais de zoéthique. Hein, c'est un point qui m'est assez cher, parce que cette concentration trop étroitement biotechnologique et de biologie fondamentale des questions d'éthique médicale aujourd'hui sur les lois de bioéthique ont tendance à nous faire oublier que la bioéthique n'est qu'une sous-discipline de l'éthique et que le bio n'est qu'un élément de l'ensemble, de la connaissance scientifique d'ailleurs et humaine, et pas le tout. Donc une sorte de saturation par le bio et par le bioéthique de toute l'éthique et de toute l'anthropologie humaine, alors que nous ne sommes pas seulement un support du bio et du corps, mais nous sommes aussi de l'esprit, de la vie spirituelle et de la zoé. Le Nouveau Testament parle de la vie comme zoé, pas seulement comme bios. Et plus même comme Zoé que comme Bios pour ce qui est des textes néo-testamentaires. Mais ça veut dire, deuxième partie de mon exposé, ça veut dire que peut-être une des difficultés du langage bioéthique, de la domination de la bioéthique américaine dans la littérature scientifique et dans la littérature éthique contemporaine, tend à, et ça rejoint des remarques que vous avez faites, tend d'une certaine manière à cacher derrière des outils et des moyens et des méthodes, le vrai problème de la zoéthique et de la bioéthique, le vrai problème éthique de notre existence humaine et de la spiritualité de l'éthique auquel les chrétiens sont particulièrement attentifs et sensibles, à savoir que l'être humain, avant d'être un être qui doit être soigné, qui doit être réparé, qui doit être cloné, qui devrait être ceci et cela, est d'abord un être de désir et de souffrance. Et ça rejoint bien le thème de la vulnérabilité introduit par Paul Ricoeur, pour, non pas pour supprimer le concept d'autonomie, mais pour approfondir le concept d'autonomie. Car évidemment, le principe de l'éthique chrétienne également, c'est pas du tout qu'il faut être contre la liberté et l'autonomie du sujet. Il faut au contraire avoir une vision paradoxale, profonde, d'un sujet de désir et de souffrance qui va vivre son destin et sa vocation jusqu'à la croix, mais dans une espérance qui transcende la croix. Donc, vue dans une vision de croix et de résurrection pour tous les êtres humains, à l'image du fondement même de la foi. Donc ça, ça me paraît extrêmement important. C'est que mon diagnostic un peu critique, puisque tu m'avais invité, Peter, à dire un peu les relations entre la théologie et la bioéthique, alors plutôt que de faire un exposé où je présenterais tout ce qui a été dit là-dessus, parce que c'est une bibliothèque entière, je me concentre de manière, dans mon style plus polémique et plus pointu, de dire, attention, il y a une certaine manière à la fois d'abuser du théologique, ça c'est Jérôme Sobel, dans la bioéthique pour utiliser Dieu à toutes les sauces, et ça il faut le critiquer, et puis de l'autre côté, il y a une tendance à vouloir multiplier les présences de l'Église, des églises évangéliques, de l'Église catholique, de nos commissions d'éthique, etc., pour prendre position sur tout ce qui se passe, tirer sur tout ce qui bouge, hein, être présent dans tous les comités d'éthique en essayant d'avoir notre petite voix pour qu'il en reste quelque chose à la fin, lorsque le rapport est publié, et on le voit bien en Suisse comme dans le CCNE, que la parole des théologiens, elle est très domestiquée, très difficile, très peu audible, pas par la faute des théologiens, mais par les réalités de la société, pas toujours par la faute des théologiens, mais parce que c'est plus difficile à faire entendre qu'avant, et par conséquent, je pense que nous, les chrétiens, c'est une thèse, comme ça je vous soumets à votre délibération, nous avons aussi, ça va rejoindre des choses qui ont été dites avant, nous avons aussi comme tâche fondamentale de redonner, c'est un enjeu théologique fondamental, que de redonner à l'humain sa pleine valeur. Plus nous serons humanistes, plus nous serons de bons théologiens, plus nous serons de bons chrétiens. Suivre Jésus, être dans la suivance de Jésus de Nazareth, vivre dans la lumière de la foi pascale, du mystère pascal de la croix et de la résurrection, c'est une puissance de pensée et de réflexion fondamentale pour mieux comprendre ce qu'est l'être humain, y compris les athées et les agnostiques, pas seulement les chrétiens, tout être humain. Ce qu'est l'humain est, fondamentalement et décisivement, un être de désir et de souffrance qui a besoin d'être accompagné et non pas d'être flatté par de la démagogie, genre exit par exemple, ou genre clonage reproductif, qui sont de la flatterie narcissique, mais qui ne sont pas la prise en question fondamentale du désir humain, de la créature humaine que nous sommes, que tous les êtres humains sont, quelles que soient leurs convictions religieuses, et de l'énigme, du mystère et de la souffrance, Job, qui fait que nous devons comprendre l'être humain dans ce paradoxe et dans cette ambivalence fondamentale. J'ai la voix qui tremble un peu. Si ma femme était là, elle me dirait « c'est parce que tu es de nous excité à cause du docteur Sobel ». Et elle aurait tout à fait raison. Je thématise un peu la chose parce que je me dis, mais pourquoi tu as la voix qui tremble? C'est parce que j'ai parlé de Jérôme, qui est un ami et un adversaire. Donc je m'énerve toujours un peu quand je parle de lui, c'est ta faute, Annette. Tu m'as fait de nouveau parler de Jérôme Sobel. Donc je me calme. Le point suivant, j'ai évoqué, vous avez vu un peu rapidement, la question de la laïcité. Je pense qu'il vous intéresse parce qu'on est tous concernés par cette question. Il me semble que c'est pas juste un autre sujet par rapport à votre conférence d'aujourd'hui. Je pense que c'est profondément lié à la question des rapports entre la foi chrétienne, l'Évangile, et puis les questions de bioéthique. C'est-à-dire que la bioéthique, c'est un révélateur extrêmement puissant, et émotionnellement, affectivement, physiquement, biologiquement, mais aussi au niveau spirituel, au niveau de la zoé, au niveau du désir et de l'imaginaire, et puis en même temps scientifiquement, parce que ça domine quand même. Ça domine le champ scientifique et universitaire, la bioéthique, ça le grand poupe, c'est là qu'il y a le plus de publications en éthique par rapport à tous les autres domaines. Et donc c'est aussi un révélateur de comment les représentations anthropologiques, les idées de l'homme, les visions de l'homme et de Dieu, de l'immanence, si vous passez ces gros mots, et de la transcendance, de manière plus laïque, plus séculière, peuvent être dites dans la société civile. Et on voit bien dans les questions de bioéthique qu'il y a toujours du Dieu qui apparaît. J'ai dit pourquoi il y avait des fois du Dieu qu'il fallait dénoncer comme de l'idole, mais qui en même temps est le défi de quel Dieu parlons-nous. Mais toujours à propos de l'homme. La bioéthique, elle a aussi tendance, on le voit par nos exemples d'ailleurs, j'ai souvent développé ce point, à être fasciné par le début et par la fin. Si vous demandez à des étudiants, je l'ai pratiqué souvent, on fait dans un séminaire, c'est quoi pour vous la bioéthique? C'est tout de suite le statut de l'embryon ou bien le docteur Sobel. Non, je n'aurais pas dû dire ça. C'est tout de suite le statut de l'embryon ou bien l'euthanasie et l'assistance au suicide. On prend les questions les plus tragiques, les plus dramatiques, les plus sur lesquelles on a le plus, l'avortement bien sûr, sur lesquelles on a le plus de dissensus et de passion, parce qu'on est tous concernés, d'une manière ou d'une autre, symboliquement ou réellement même, qu'on soit par jeunes parents ou qu'on n'ait pas d'enfants ou qu'on soit des grands-parents, on est tous concernés par la naissance et puis on est tous concernés par la mort. Et comme dit un de mes théologiens juifs préférés, la vraie question n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, Mais s'il y a une vie avant la mort. J'ai cité Woody Allen, n'est-ce pas? Ou si on est cinéaste préféré. Mais je veux dire, il y a Bonnefer, le grand théologien protestant Bonnefer, en 43, tiens, dans la même année 43 que le grand C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, dans son éthique, exact, j'ai noté quand tu as parlé, dans la même année, disait au fond, s'opposer à l'euthanasie, pas tellement parce que c'était, parce qu'on allait vers l'assistance au suicide et l'euthanasie dans les hôpitaux, la légitimation éthique de l'euthanasie rampante à laquelle nous assistons dans nos sociétés aujourd'hui, mais parce que c'était l'outil principal du régime nazi pour réduire les handicapés, les juifs et les homosexuels hors du champ social. Donc il y avait un enjeu politique du débat sur l'euthanasie. À mon avis, il est toujours présent aujourd'hui. Mais ça veut dire, pour dire les choses autrement, que la bioéthique, bien sûr, elle doit traiter du début et de la fin, mais elle ne peut le faire, de mon point de vue, qu'à la condition de le faire toujours, parce que le centre de la vie, c'est entre la naissance et la mort. C'est pas ou bien la naissance ou bien la mort. Il y a bien une vie au milieu entre la vie et la mort, cette vie fragile, vulnérable, exposée, qui est la nôtre, qui est celle de nos enfants, qui est celle des êtres humains de notre société. Et si la bioéthique se laisse fasciner, comme c'est à mon avis trop souvent le cas, uniquement par le débat sur le début et uniquement par le débat sur la fin, elle oublie la tâche principale d'une éthique humaniste, et pour nous, d'une éthique chrétienne, à savoir quel est le sens de la vie de l'homme, de l'être humain, de la femme et de l'homme, durant toute sa vie et pas seulement dans les moments contestés, dramatiques, exposés du début et de la fin. Vous comprenez bien que ça ne veut absolument pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux questions du début et de la fin, mais qu'il ne faut pas oublier ce qu'il y a entre deux. Il ne faut pas oublier l'entre-deux si on veut faire les choses. Mais comment le faire dans une société laïque, séculière, qui, d'une certaine manière, n'entend plus les arguments religieux? Ma thèse ici, et je vais m'approcher de la conclusion pour vous permettre de poser des questions, la thèse que je défends depuis des années dans tous mes travaux et dans mes engagements sociaux et publics du point de vue éthique, c'est que nous devons être, et c'est une thèse très protestante, mais dans le sens de très réformée, peut-être pas suffisamment évangélique, c'est vous qui direz, mais j'entends dans le sens, je crois que ça, d'ailleurs, c'est pas incompatible, c'est pas dit d'avance que ça peut pas se rejoindre, donc nous ne pourrions pas être d'accord, j'en suis persuadé que c'est possible, y compris du côté catholique romain. Mais ma thèse fondamentale, personnellement comme théologien réformé, presbytérien à l'américaine, c'est de dire, plus nous serons rigoureux, sévères, engagés, passionnés dans le théologique et dans la défense du nom de Dieu, plus nous serons capables d'habiter la laïcité de manière paisible. Donc c'est pas, plus nous sommes religieux, et là il y a peut-être des différences et avec Rome et avec les évangéliques en moi, et vous le direz, c'est pas puisque nous sommes plus religieux et plus croyants que nous affirmons le Dieu de Jésus-Christ, alors toutes les valeurs, les réalités, les croyances éthiques de l'Église doivent se réaliser dans la société. Non. J'ai du rapport entre l'Église et l'État, ou entre le royaume de Dieu, j'ai la doctrine des deux reines, de Luther et de Calvin, derrière les yeux, quand je parle ici, mais c'était aussi celle de saint Augustin dans la cité de Dieu, entre la cité terrestre et la cité de Dieu, il n'y a pas strict recoupement. Nous le savons d'ailleurs tous. Hein, d'autant plus que nous sommes tous conscients, toutes confessions confondues, que nous sommes de plus en plus minoritaires. Il n'y a pas seulement les évangéliques qui se sentent minoritaires, il y a aussi les catholiques romains français. Je ne cesse de faire des colloques avec les catholiques français qui se sentent très minoritaires. Le directeur de la vie disait récemment à un homme politique français, avant le débat qui va se terminer, comme on verra demain soir, n'oubliez pas, monsieur le ministre, qu'il y a quand même 4 millions de catholiques français qui vous écoutent. Donc il avait le sentiment qu'il y avait 4 millions de catholiques vivants, mais il ne pensait pas à tous les catholiques sociologiques. Donc on est quand même une minorité importante, nous les catholiques français. Donc même les catholiques français ont intégré l'idée sociologique et réelle qu'ils étaient une minorité. Donc nous sommes tous conscients, et si on est chrétien, on est toujours conscient qu'on a un côté minoritaire, forcément, parce que la foi chrétienne ne va quand même pas de soi au point d'être votée par tous les parlements et par toutes les instances rationalistes. Hein, donc ce sentiment minoritaire, ce sentiment de résistance, de rébellion et de singularité chrétienne qui est la nôtre et que nous partageons toutes confessions confondues, fait que nous devons être plus libres d'annoncer l'évangile et de le dire et de critiquer les idoles et les dieux des autres, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure de manière impertinente à propos de Monsieur Sobel ou d'autres, et que de l'autre côté, bien sûr, ceci nous devrait nous apaiser, nous donner une solide tranquillité pour affronter les questions éthiques qui sont forcément plurielles, et il n'est pas question d'imposer le point de vue chrétien, le point de vue protestant, le point de vue catholique, le point de vue évangélique à l'ensemble de la société. De toute façon, si nous le voulions, nous n'y arriverons pas. Mais il est question plutôt de témoigner et de montrer comment le point de vue chrétien que nous défendons a une puissance d'illumination et d'éclairage pour les débats éthiques, mais ce n'est pas pour autant que la société doit nous suivre sur tous les points. Et alors je rejoins ce que tu disais aussi, Annette. Moi, je suis persuadé sur un certain nombre de questions, certaines bioéthiques éventuellement, l'assistance au suicide ou l'euthanasie, d'autres qui apparemment n'ont pas de rapport, le mariage des couples homosexuels. Je dirais juste un mot là-dessus pour finir. La bataille est souvent perdue. Et pourtant, demain, après les votations qui auront lieu sur ces sujets, nous devrons continuer à dire nos convictions, même si nous sommes battus sur le plan juridique. L'éthique ne se termine pas, et l'éthique chrétienne n'a jamais dit son dernier mot après un vote populaire. Même sur Exit, peut-être, si le contre-projet parle, l'Église catholique vaudoise continuera à dire son malaise, Madame Sandeau, en grande protestante, continuera avec sa grande liberté bien connue, et puis les églises protestantes devront se situer aussi par rapport à ça. Donc le débat continue, le droit n'est jamais la fin de l'éthique, et ne doit jamais empêcher les églises et les religions de s'exprimer. Je me permets cette petite pique personnelle finale. Si vous avez lu un mauvais livre qui parle des turbulences des églises réformées, je me suis permis de dire à la radio que c'est un mauvais livre, je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas devant vous, dans lequel en particulier un des deux co-auteurs, je ne veux pas parler de mon prédécesseur, M. Fuchs, mais un des deux co-auteurs, le pasteur Pierre Glardon, membre de la même église que moi, se permet de me traiter d'ultra-libéral. Il dit que je suis le pire des libéraux. Et bien, il se trouve que sur l'homosexualité, moi je suis pour le PAC, c'est le partenariat homosexuel depuis 20 ans, mais que je me bats depuis 20 ans de même manière et en toute cohérence contre la notion de mariage homosexuel et contre la notion d'adoption et d'homoparentalité. Mais donc voilà, je suis un libéral, parce que je suis pour le partenariat homosexuel, mais dire que je suis un ultra-libéral sur la question de l'homosexualité, il faut vraiment ne pas avoir lu grand-chose de ce que j'ai écrit pour dire une chose aussi peu honnête. Je vous remercie de votre attention. Je suis parfois polémique, mais je dis ce que je pense, y compris à mes co-religionnaires protestants. Merci beaucoup de votre attention.
Alors, Denis, merci beaucoup. Denis a laissé beaucoup de temps pour des questions. Non, vous n'êtes pas. Oui, c'était court, donc.
On peut reprendre certains points plus tranquillement et répondre à vos questions sur le général ou bien sur le particulier. Il n'y a pas un verre d'eau pour moi quelque part, là. J'aurais juste besoin de boire un peu. Si quelqu'un pouvait m'apporter un verre d'eau, merci beaucoup. J'ai oublié d'y penser. Il y a des questions à notre droite là. Qui c'est qui commence? Vas-y, monsieur.
Une notion qui m'interpelle un petit peu, c'est cette notion de minoritaire. Hein?
Oui.
Donc, qui est intéressante. Et je crois que on parle souvent maintenant de société post-chrétienne, en fait.
Oui.
Est-ce que c'est parce qu'on a oublié qu'on a toujours été minoritaire, en fait?
Oui, alors minoritaire, ensuite on peut faire des sociologies puis des variations. Hein. Je n'arrête pas de me battre, merci beaucoup madame, je n'arrête pas de me battre avec, d'essayer d'expliquer à mes collègues genevois que si on veut sauver une faculté de théologie, pour parler de ce qui me concerne professionnellement, à Genève, il faut peut-être pas oublier que le protestantisme minoritaire, il est plutôt dans le canton de Vaud. Tout simplement, comme je dis souvent, c'est pas si facile de transporter le statut de Calvin à Lausanne. Parce qu'elle sera toujours éternellement là-bas, dans le Grand Genève, comme disent certains. Voilà, mais bien sûr que du point de vue, le grand Adolphe von Harnack, le grand théologien libéral, avait eu cette phrase magnifique, qu'il fallait jamais oublier que le christianisme était une secte du judaïsme, une secte qui avait réussi. Hein, donc, cette lucidité minoritaire. Maintenant, moi, j'ai l'impression que je lis les auteurs protestants qui écrivent maintenant sur le temps presse, comme Virgile Rochat, dans un livre fort, fort honnête, mais pas forcément bouleversant de novation. Ou bien le mauvais livre que j'ai cité précédemment, et dont je ne citerai plus les auteurs, par gain de paix. Moi, j'ai le sentiment comme réformé, mais je le dis parce que je suis ici devant vous, évangélique, j'ai le sentiment comme réformé que les réformés souffrent d'un complexe d'infériorité devant les évangéliques en pensant que vous êtes des centaines de millions. Il y a un imaginaire réformé des églises évangéliques toujours pleines, et puis parce qu'on confond aussi avec tous les évangéliques, avec certains fondamentalistes américains et pas les autres, et qu'on vous identifie à tort évangélique et fondamentaliste, mais qu'en même temps il y a une sorte de complexe des réformés. Nous on est tout petit minoritaire, mais allez dans les églises évangéliques voir combien il y a de jeunes et combien il y a de monde. Si on fait sociologiquement la liste, c'est bien, ça va être confirmé en partie, bien sûr, pour des tas de raisons, mais c'est aussi beaucoup plus complexe. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est beaucoup plus complexe. Hein, mais je pense qu'il y a une autre manière de vivre la minorité dans la tradition évangélique ou dans la tradition réformée, parce que les églises réformées viennent, en tout cas dans nos régions, viennent d'une situation clairement majoritaire, politiquement. Hein, alors que c'est pas le cas des églises évangéliques par définition aussi, à cause de la séparation, de la notion des églises libres, etc. Et puis pour l'église catholique, c'est aussi très différent selon qu'on regarde combien les souffrances des catholiques vaudois, c'est pas la même chose que celle des protestants valaisans. Donc si on regarde les sociologies, ou si on parle des protestants français ou de l'IRF, et puis des évangéliques ou de la Fédération protestante de France qui réunit une partie de l'ensemble, on voit bien que c'est pas le contexte sociologique et historique est quand même très important. On peut pas généraliser. Mais oui, moi j'ai fait de la théologie. Je suis devenu pasteur et fait de la théologie. J'allais dire, vous me pardonnerez, par accident, puisque je voulais faire de la philo et du grec. Puis les paroissiens m'ont convaincu que je pouvais devenir pasteur, et je suis le seul de ma génération en 68 qui suis devenu pasteur. Et qui aime prêcher, encore aujourd'hui. Hein, mais j'ai toujours eu le sentiment, venant d'une famille relativement agnostique et peu pratiquante, et ouvrière, j'ai toujours eu le sentiment que le fait qu'on nous dise que Dieu va plus de soi aujourd'hui, que tout le monde ne sait pas qui est Jésus-Christ, etc., moi ça ne m'étonne pas une minute, parce que j'ai vécu ça dès mon enfance, c'est comme ça. Donc la religion chrétienne ne va pas de soi, elle n'a jamais été de soi, il faut toujours, là je suis très kierkegaardien, il faut toujours redevenir chrétien tous les jours, et puis c'est pas si facile. Mais on n'est pas chrétien comme ça par nature et par devoir, et parce qu'on l'a hérité. En tout cas pas moi. Mais ça rend pour moi le travail, l'identité pastorale. Parce que je suis pasteur aussi de l'église réformée de Neuchâtel et pas seulement de celle de Vaud, il faut quand même préciser. Je suis deux fois pasteur. Mais le fait d'être professeur de théologie et de continuer, malgré tous les déboires de nos facultés, de nos églises, à continuer à faire mon travail avec vous, avec plaisir, comme vous le faites vous-même, c'est parce que la question de Dieu et la question de la foi, elle est toujours vivante. Et je me la pose tous les matins. Qu'est-ce que tu crois vraiment? Et j'espère que vous comprenez bien que je suis pas en train d'étaler. Je n'aime pas beaucoup le livre de ce pasteur hollandais Hendrikse chez Laboré Fides, que mon ami Gabriel a publié parce que ça lui rapportait peut-être un peu d'argent, mais qui dit qu'au fond, il a découvert que Dieu n'existait pas et que lui, comme pasteur, il croyait pas que Dieu existait, mais qu'à la fin, il vous dit quand même, je crois pas que Dieu existe, mais je crois en Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un piétiste protestant du 19e siècle et c'est rien de nouveau. On a lu ça déjà bien avant, mais ça se présente comme la nouvelle théologie up-to-date pour être un pasteur moderne aux Pays-Bas. C'est très hollandais, entre parenthèses. Mais très bien. Mais c'est pas parce qu'on dit une chose sympathique qu'on a déjà dit en 1810 qu'on est novateur. Vous voyez, on redécouvre tous les jours un peu la Lune, on affirme, là je deviens un peu sceptique avec l'âge, on nous présente souvent tous les jours, il faut quand même se rappeler de, il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou bien de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, ben, il y a un temps pour se souvenir aussi de ce que nos pères, nos mères, il y en avait moins, de ce que nos pères ont dit dans la foi, ont dit avant nous, on n'est pas en train de réinventer le christianisme tous les jours. Mais en même temps, c'est à nous, c'est à notre génération, c'est à vous et à moi, c'est à nos enfants, c'est à ceux à qui nous parlons, de se dire ça veut dire quoi être croyant, déjà croire en Dieu, puis être chrétien aujourd'hui. Et ça, de ce point de vue-là, c'est toujours minoritaire. Hein? Donc, mais ça, je pense pas, et je pense que je connais beaucoup de catholiques je pense même que Ratzinger, parfois, il doit se dire ça quand il se lève. Je suis même sûr qu'il se le dit. C'est pas la position d'autorité ou de pouvoir qui fait qu'il n'est pas conscient de cette réalité. Mais il y avait une question derrière, je crois, si tu permets, Peter. J'avais vu une main levée à droite, puis après à gauche.
Oui, j'ai bien aimé comme vous avez développé la notion de vulnérabilité. Puis moi, je travaille dans un service social où je vois des gens extrêmement inquiets sur leur vie. Et je me rends compte que la grosse difficulté en tant que croyant, c'est comment rassurer des gens fondamentalement inquiets, parce que c'est vrai que tout nous échappe, hein, l'économie nous échappe, on a 300 personnes mises à la rue,
bien sûr.
La pollution, la peur de la fin du monde, etc. Et puis je sens bien que les gens, s'il y a un raz-de-marée là au canton de Vaud, moi ça m'étonnerait pas trop, parce qu'ils doivent se dire, ces gens, tout m'échappe sauf la fin, là je vais pouvoir décider. Alors, comment rassurer ces gens que tout inquiète? C'est donc pas l'individualisme dominant, hein, c'est au contraire, c'est des gens manipulés de partout par les médias qui tout d'un coup disent, ah, au moins là, il y a un petit échappatoire, je vais pouvoir prendre ma vie en main. Et c'est à cette inquiétude générale qui a cette difficulté d'être rassurant pour nous.
Ouais.
Et je vois pas comment faire pour rassurer, parce qu'on n'a qu'une petite voix par rapport aux médias.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites et je suis pas sûr de pouvoir reprendre tout, mais peut-être deux choses me sont venues en vous écoutant. D'abord, ce qu'Annette a dit tout à l'heure, c'est très important, ça vient de Ricoeur, on le trouve chez Peluchon et chez Nathalie Maillard, c'est le trend actuel, mais il est très important. C'est-à-dire, la vulnérabilité, c'est pas, j'ai été président d'AZA Handicap Mandal pendant 6 ans, parce que j'avais un frère handicapé qui est mort il y a 12 ans. La vulnérabilité, c'est pas les handicapés, c'est pas les pauvres, c'est pas les faibles, c'est moi. Nous sommes fondamentalement constitutivement vulnérables, et parce que nous sommes des créatures, et parce que nous sommes pêcheurs, si on veut prendre le langage de la tribu de Canaan, auquel nous appartenons tous. Et ensuite, il faut dire ce que ça veut dire être pêcheur, mais entre nous, on se comprend. Hein? Donc, on sait que cette dimension de péché, cette dimension de créaturalité, moi je dis créaturalité, cette dimension de créaturalité ou de créaturité, comme tu as dit, et puis de faillibilité et de péché, elle est consubstantielle à la foi chrétienne, à la compréhension de l'homme qui est celle du chrétien. Par-delà nos différences théologiques éventuelles. Donc ça c'est très important. C'est donc tous les hommes, c'est tous, mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y en a pas qui sont plus vulnérables que d'autres et que ceux que vous accompagnez, avec qui vous travaillez, les travailleurs sociaux, les animateurs d'ateliers protégés, etc., n'ont pas des tâches, ou les dans les soins, n'ont pas des tâches spécifiques. Maintenant, la vulnérabilité, justement, c'est pas seulement une vulnérabilité. Moi, je suis moins inquiet que vous. Enfin, je vais juste dire ça. Je vais revenir quand même sur Exit. Parce que vous y avez fait allusion implicitement maintenant dans votre question. Moi, je suis moins inquiet sur... D'abord, je distinguerai plus fortement que toi, Annette, entre le débat sur le suicide, puis le débat sur l'assistance au suicide, parce que je pense que c'est un débat très différent. Parce que moi, ce qui me choque dans l'assistance au suicide, c'est le médecin qui devient le professionnel de l'accompagnement. C'est ça qui me choque le plus dans l'assistance au suicide. C'est pas tellement que la personne veuille mourir, c'est le fait que on pense qu'il faut être un bon médecin pour le faire. C'est ce paternalisme médical qui me choque le plus. Mais en même temps, moi, je pense que j'ai un certain optimisme anthropologique en moi qui est peut-être de la naïveté, je vous laisse juger. Moi, autant je pense que c'est important de dire publiquement, comme Annette l'a fait, ou comme le feront tant bien que mal les églises, dans le débat sur Vaudois ou dans d'autres cantons, sur le fait qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte, dans cette espèce de démagogie, de suivisme démagogique d'Exit. C'est bien que ça soit dit. Maintenant, j'ai quelques raisons de penser, j'espère me tromper, que malheureusement, cette démagogie, tous les sondages semblent l'indiquer, mais les sondages parfois sont faux, j'espère pas demain soir, mais on sait jamais, je ne devrais pas faire de politique. Je crois qu'il y a une tendance, les gens, pour des tas de raisons, aussi à cause de ce que tu as dit, pense que s'il faut être libre, cette idéologie de l'individualisme, de la libertarisme individuel fait que, au fond, beaucoup de gens sont pour Exit et vont voter oui à l'initiative Exit le 17 juin, alors que s'ils étaient eux-mêmes concernés, ils diraient peut-être non, par une sorte de démagogisme ambiant, de faiblesse réflexive ambiante. Donc je suis un peu pessimiste sur cette capacité du peuple à résister, mais par contre, je crois pas du tout que si malheureusement l'initiative d'Exit passe, il va y avoir une ruée sur le suicide dans les EMS. Je crois pas qu'il y a il faut pas non plus faire de lien à cause de la pente savonneuse. Il faut pas non plus faire de lien. Je pense que les gens sont plus robustes et plus sains que ça. Et que j'ai vécu dans plusieurs hôpitaux dans le canton de Vaud des débats sur qu'est-ce qu'on fait quand Exit sonne et puis etc. Il y a une capacité de résistance. Et d'ailleurs, dans le texte du contre-projet, il y a pas seulement l'examen par un deuxième médecin, il faut juger du contexte et juger si la demande est authentique. Donc, il y a aussi encore la capacité de dire non. C'est pas il n'y a pas de droit. Il reste un jugement, une délibération de l'autonomie des EMS qui ne peuvent pas s'opposer ici, mais qui reste maître de l'interprétation des conditions. Hein, donc les conditions, il suffit pas que la loi, en contre-projet du Grand Conseil de M. Lebas, dise les conditions pour que on sache ce qu'il faut faire. Après, les EMS, ils devront dire on fait quoi. Et je suis certain que la chrysalide à la Chaux-de-Fonds ou les hôpitaux catholiques ou évangéliques dans le canton de Vaud seront résistés et être sages par rapport à cette dérive. Hein, donc, on n'est pas non plus des moutons qui devront appliquer la loi de manière stupide et aveugle. On a aussi des êtres responsables qui devront interpréter la loi. Et donc, il y a un certain écart entre la loi qu'elle votée. Mais voyez, je dis ça tout en disant que vous avez raison. Il faut combattre, il faut pas voter. Au minimum, cette initiative. Puis après, il faut délibérer politiquement et stratégiquement. S'il faut voter quand même le contre-projet, ce serait plutôt mon analyse, pour éviter. Parce que là, c'est quand même prévu que s'il y en a un des deux qui gagne, c'est lequel qui gagne. Donc il vaudrait mieux que ça soit le contre-projet que l'initiative, et que si vous préconisez le refus des deux, comme c'est le point de vue d'Annette et je pense de l'Église catholique, si j'ai bien compris, le résultat, ça va être la victoire de l'initiative. Donc là, on est dans la politique politicienne et dans la stratégie politique. On n'est plus dans l'éthique au sens pur. Mais l'éthique de la responsabilité, c'est aussi parfois voter quelque chose de moins pire que... Donc là, on est un peu coincé, mais pas seulement les chrétiens. On est aussi coincé comme humaniste ou comme personne. Et ben, si on est contre le contre-projet, aussi, alors est-ce qu'on va pas faire gagner l'initiative? Et là, je pense que là, on voit bien que nous, les chrétiens, nous sommes aussi des citoyens, des hommes politiques, des zoon politikon, qui devons délibérer rationnellement et que le fait qu'on soit chrétien ne change rien. Ici, c'est juste une question de délibération rationnelle, de stratégie politique. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont cette délibération, tous les êtres humains, tous les citoyens. Il y avait encore une question, je crois, Peter, derrière, si je me souviens. Oui. Je vous en prie.
Je voulais revenir sur Exit et Dignitas aussi. Et poser cette question finalement dans cette initiative, est-ce que c'est finalement ça, c'est vraiment le vœu, ça émane vraiment des assistants au suicide ou des personnes qui demanderaient le suicide? Et puis pour cadrer la question, je vous ai demandé, est-ce qu'il y a des assistants au suicide, des employés de Dignitas ou d'Exit qui se sont levés spontanément et ont fait leur travail bénévolement? Est-ce que ça s'est vu?
Oui, c'est une question délicate, j'ai pas tous les éléments d'information. D'une manière générale, on admet, et je suis prêt à le reconnaître à Monsieur Sobel, j'ai toujours dit ça publiquement, ou dans les émissions de télévision, on s'est opposé, dans les articles de journaux. Je pense que Exit, du point de vue d'honnêteté intellectuelle, est plus fiable que Dignitas. C'est pas difficile, parce que Monsieur Minelli est vraiment un danger public. Et en quelque sorte particulièrement incompétent. Ce n'est pas le cas de Jérôme Sobel, qui sait ce qu'il fait, qui est médecin, qui sait ce qu'il fait. Tous les médecins ne savent pas forcément ce qu'ils font parce qu'ils sont médecins. Mais disons, il est conscient, même quand il met la main sur le cœur, comme dans le temps pour dire qu'il le jure devant Dieu et que le Seigneur donnera raison. Mauvaise théologie. Mauvaise conscience du péché. Mais indépendamment de ça, j'ai tendance à penser, j'avais fait un article, on avait réfléchi avec mon collègue Marco Vanotti, psychiatre, et pédopsychiatre de Neuchâtel et accompagnateur de ce systémique familial et qui lutte dans la prévention contre le suicide en général et pas sur le thème de l'assistance au suicide. Nous avons la conviction tous les deux et beaucoup de soignants ou de membres des associations, des infirmières ou des médecins que l'encadrement et la supervision des bénévoles d'Exit est extrêmement insuffisant et que d'une certaine manière, il y a un matraquage charismatique, de la personnalité charismatique par rapport aux bénévoles qui suivent assez aveuglément. Donc ils sont pas très autonomes. Ils se gargarisent de liberté pour ceux qui suicident, mais à l'intérieur ça fonctionne de manière très hiérarchique. Ça c'est, mais il faudrait demander à un sociologue ou à un psychologue de l'étudier factuellement. Moi je le dis comme impression, mais peut-être que c'est le fait que je suis opposé qui fait que je dis les choses et que c'est pas juste du point de vue factuel. Donc je voudrais pas faire porter injure ou être un mal poli ou un malhonnête par rapport aux gens qui le font certainement souvent sincèrement, par rapport à une souffrance ou un sentiment de faire du bien, d'être bénévoles qui font du bien. Ça, je veux absolument pas nier qu'il y a des gens qui le font. La plupart le font de manière sincère. Ma question porte pas sur leur sincérité, mais sur leur conscience aussi que c'est toi, je crois, Luc, qui a parlé quand tu as parlé de la Trinité, de la différence entre l'ontologie et la relation, quand tu as parlé du clonage, je souscris tout à fait à ce que tu as dit tout à l'heure sur ce point aussi, mais dans le cas présent aussi, alors je pense que l'éthique et l'éthique chrétienne doit aussi s'accompagner de réflexions psychosociologiques sur les effets produits par les choses qui se passent, et que dans le cas d'Exit, tel que je le connais, même d'Exit et pas seulement de Dignitas, en Suisse romande, l'ensemble de l'organisation Exit, pris par la passion de cette liberté d'obtenir un droit, de cette éthique du droit très, très nord-américaine, c'est le droit qui prime sur la responsabilité, oublie les conséquences systémiques que ça produit sur l'environnement et ne s'occupe pas du tout de ce que la famille ressent, ou de ce que les frères et sœurs ressentent, ou de la pluralité dans la famille. Il suffit qu'il y en ait un qui dise oui, alors on y va parce que ça va dans le sens de l'organisation. Mais ce que ça produit comme effets collatéraux dans une dynamique familiale, tous les soignants et tous les accompagnants, tous les ecclésiastiques qui font des visites sérieuses à des familles savent que c'est beaucoup plus complexe. Et ça fait aussi partie de l'éthique de la responsabilité que de prendre en compte les... Mais voyez, encore une fois, ce que je dis là, c'est faisons attention, soyons prudents, avertissons les gens d'Exit et la société qu'il peut y avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que je prétends que tous les accompagnateurs d'Exit sont des gens qui ne sont pas responsables et qui ne sont pas sensibles à la dynamique familiale. J'ai la même position, si vous me permettez de vous scandaliser une autre fois, sur les astrologues. Oui, je change complètement de sujet, mais comme M. Nérin qui a traité de fief et menteur aussi bien les astrologues que les vendeurs d'eau minérale gazeuse, on peut avec Jacques parfois un peu mélanger un peu tout. Hein, mais dans le cas précis, j'avais fait des études antérieures sur l'astrologie et j'avais écrit comme théologien chrétien que je voyais pas de compatibilité, je vous rassure, pas de compatibilité entre l'astrologie, contrairement à Philippe Mélenchon ou à quelques grands théologiens protestants, entre l'astrologie et la foi chrétienne. Cela dit, il y a des astrologues humanistes qui accompagnent très bien leurs personnes et qui sont parfaitement conscients des dangers qu'ils produisent et qui, même si on peut penser que l'astrologie crée des dégâts, sont conscients psychologiquement de leurs responsabilités et sont de bons psychologues. Donc il y a des psychologues astrologiques qui font du bon travail et des astrologues qui sont des charlatans. Mais contrairement à mon ami Jacques Nérin, je ne dirais pas que je n'oserais pas prétendre que tous les astrologues sont des charlatans uniquement parce qu'ils sont astrologues. Vous voyez, j'ai même ce libéralisme, moi je suis un ultra-libéral sur ce point, j'ai même ce libéralisme de dire qu'il pourrait y avoir, j'en connais en tout cas un, des gens qui croient à l'astrologie contrairement à moi, mais qui sont très responsables de ce qu'ils font et qui essaient d'éduquer les gens à la liberté, non pas au déterminisme. Parce que c'est ce que pensent la plupart des astrologues modernes, comme vous savez, qui sont là pour aider les gens à être libres et non pas à être déterminés. Mais nous avons l'idée contraire souvent. Donc voilà, donc je suis prêt à le défendre, vous voyez, même auprès de gens qui pensent des choses bien, bien différentes encore. Parce que la qualité humaine de l'accompagnement n'est pas nécessairement dépendante de l'idéologie ou de la foi à laquelle on adhère. Et il y a aussi des chrétiens qui se comportent mal comme médecins ou comme soignants, qui sont pas psychologiquement adéquats. On doit aussi faire l'autocritique. À l'intérieur de nos propres communautés, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on aide bien les autres. On peut être tout à fait mauvais professionnel en étant chrétien. Malheureusement. Mais ça sera pas parce qu'on est chrétien, c'est parce qu'on sera de mauvais professionnels. Ce sera de l'incompétence. Il y a des chrétiens, malheureusement, incompétents. Je ne pense à personne en particulier. Juste à un auteur qui cite tout de travers.